Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Pauline.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous aujourd'hui, on va faire une émission très pratique. C'est ce qu'on a vendu à nos invités, à nos auditeurs, puisque vous allez nous donner donc vos meilleures recettes de cosmétiques maison et naturelles. Mais d'abord, vous allez nous aider quand même à faire un petit peu le tri chez nous sur ce qu'on a déjà dans nos placards, les sérums, les crèmes, les eaux micellaires, etc. D'abord, je crois que pour se débarrasser de ce qui n'est pas bon, en tout cas, au moins, on doit se débarrasser déjà du périmé. Mais c'est pas évident de voir comment c'est périmé un produit. Il n'y a pas toujours la date, non, dessus.
Ouais, ça c'est vraiment la première étape de faire le tri un peu dans ce qu'on a parce qu'on a tendance stocker trop de choses, un peu comme son placard de vêtements. On a beaucoup de cosmétiques dont on ne sert pas et notamment des cosmétiques qui sont périmés.
Et elle est où la date sur les cosmétiques alors?
Ça c'est une bonne question. Il y a certains cosmétiques où il y a un sigle avec un petit pot ouvert et il peut être indiqué par exemple 6M ou 12M. Ah. Ça veut dire 6 mois ou 12 mois par exemple.
C'est-à-dire qu'on peut les utiliser 6 mois après l'ouverture, c'est
ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle la PAO et puis c'est la période après ouverture, donc la période pendant laquelle on peut utiliser le cosmétique. Passé cette date, le cosmétique effectivement peut être périmé. Dans ces cas-là, il ne faut plus l'utiliser.
Finalement, ça se garde maximum un an, quoi, une crème en fait.
Ça dépend les produits, ça dépend, mais généralement c'est ça, exactement.
Jimmy ?
Bon, une fois qu'on s'est débarrassé de ce qui ne nous sert pas ou ce qui est périmé, on fait comment pour décrypter les étiquettes, pour savoir si un cosmétique est de qualité ? Parce que souvent, c'est des ingrédients qu'on ne comprend absolument pas, donc comment on fait ?
Alors, il faut regarder la petite liste, donc la liste Inky, qui est la liste des ingrédients. Après, c'est vrai que c'est pas très simple parce que les listes aujourd'hui, elles sont à rallonge et qu'on parle pas tous
latin ou grec.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a certains ingrédients qu'il faut repérer, notamment tout ce qui est huile minérale, donc des huiles issues de l'industrie pétrochimique, tout simplement.
C'est quoi ces noms-là?
Alors, ça peut être marqué, par exemple, mineral oil, ou pétrolatum, s'il y a des mots comme ça, ou paraffiniquide, paraffinum liquidum.
Ça, on jette.
Ça, disons que c'est des huiles qui sont issues de l'industrie pétrochimique, c'est des huiles mortes qui apportent rien à la peau, qui sont là pour remplir, entre guillemets, le cosmétique, mais qui n'ont aucune affinité avec la peau.
Alors, Pauline, vous allez nous donner, bien sûr, quelques recettes pour se lancer dans la fabrication de nos produits beauté maison. Mais d'abord, j'imagine qu'il faut un petit peu s'équiper, quand même, avant de se lancer. Qu'est-ce qu'on achète comme ustensile ou qu'est-ce qu'il faut avoir absolument à la maison pour pouvoir fabriquer, je sais pas, un déo, un sérum, je sais pas, des bols, qu'est-ce qu'il faut spécialement avoir?
Alors c'est vrai qu'il faut un minimum de choses, c'est un peu comme quand vous vous lancez dans la pâtisserie, si vous faites des crêpes sans poêle, ça ne va pas fonctionner. Mais en réalité, c'est des choses que vous avez souvent déjà chez vous, puisque il y a pas mal de choses qui se font au bain-marie, et puis si vous faites fondre du chocolat pour faire de la pâtisserie, vous avez déjà finalement
une casserole.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est juste qu'il faut des petits récipients, parce que généralement, c'est des petites quantités qu'on fait. On ne va pas faire un kilo de crème non plus. Et du coup, il faut que ça s'adapte à la quantité qu'on va faire. Mais voilà, des petites choses, un petit fouet,
des petites spatules,
des bols qui résistent à la chaleur, des choses comme ça.
Il ne faut pas investir dans une petite balance pour tout ce qui est grammes, enfin savoir exactement à quel milligramme de je ne sais pas quoi, de gouttes de ça il faut mettre, ou si ou ça.
Alors, il y a deux écoles. On peut faire des recettes très précises, dosées au dixième de gramme près. Et dans ces cas-là, effectivement, il faudra une balance puisque souvent la balance de cuisine n'est pas assez précise. Il y a des recettes qui peuvent être faites en cuillère.
Dans votre livre, c'est comme ça.
Ça.
Il faut 3 cuillères de ça, 3 cuillères de ci à
café.
Exactement.
Ouais, et donc là,
il n'y a pas besoin de balance. Jimmy ?
Et ensuite, il y a les matières premières qu'il faut faire fondre, mais vous dites qu'il ne faut pas le faire avec un micro-ondes. Pourquoi ça ?
Disons qu'avec le micro-ondes, on ne maîtrise pas vraiment la fonte des ingrédients et la chaleur. Et par exemple, les huiles végétales sont très sensibles à la chaleur. On risque de les dénaturer si on les brûle ou alors de faire qu'elles vont s'oxyder plus vite. Donc c'est mieux les faire doucement fondre au bain-marie que d'aller les brûler au micro-ondes.
Alors après, évidemment, quand on fait de la cosmétique maison, c'est comme quand on cuisine, il y a un petit peu un minimum d'hygiène quand même. Surtout que c'est des choses qu'on va mettre sur sa peau tous les jours. Donc évidemment, avant de commencer, on se lave les mains, mais on désinfecte aussi tout ce qu'on va utiliser, les spatules, les ingrédients, etc. Donc pas les ingrédients, mais les spatules, les bols, les récipients. Et on peut même fabriquer son désinfectant maison. Comment ?
Alors, on peut fabriquer son propre désinfectant à partir d'alcool dénaturé à 70 degrés, tout simplement. Et on peut ajouter des petites gouttes d'huile essentielle dedans pour que ça sente bon et pour donner un petit peu plus l'envie de nettoyer. Parce qu'on a tendance à oublier cette étape qui est vraiment, vraiment primordiale.
Jimmy ?
Et par la suite, les cosmétiques maison qu'on peut faire, ils sont certains plus sensibles au développement de champignons. Et notamment ceux qui ne contiennent pas apparemment de produits gras. Donc, il faudrait faire un peu plus attention.
Ils sont plus fragiles, hein, c'est ça. Alors, aux bactéries.
Oui.
Aux,
ouais. Dès lors qu'il y a de l'eau ou un produit aqueux dans un produit, ça devient un milieu propice au développement de micro-organismes, les bactéries, les moisissures, les levures. Donc là, il faut veiller à une bonne conservation et on a besoin de conservateurs comme l'extrait de pépins pamplemousse qui va limiter la prolifération des bactéries.
Mais ce sont des conservateurs naturels du coup et pas les trucs chimiques qu'on met dans les produits industriels, hein, c'est ça ?
Oui, l'extrait de pépins de pamplemousse, oui, c'est un conservateur naturel qui permet une durée de un mois de conservation à peu près.
D'accord.
Des cosmétiques qui contiennent.
Par contre, ces cosmétiques maison, il faut savoir qu'ils se gardent moins longtemps que les produits effectivement qu'on achète en supermarché, ça c'est sûr.
Oui, pour une crème, c'est en moyenne un mois avec l'extrait de pépins de pamplemousse. Tout ce qui est corps gras, tout ce qui est baume, huile, sérum, là, c'est beaucoup plus long. Ça peut être six mois. Le tout, c'est qu'il faut, ça va rancir un jour ou l'autre. Donc, il ne faut pas appliquer un cosmétique qui a ranci sur sa peau.
Oui, dès qu'il y a une drôle d'odeur ou une drôle de couleur, on jette. Hein,
changement d'odeur, couleur, texture. Mmh. Ouais.
Donc, ce qui est très important, c'est de s'équiper peut-être d'étiquettes quand même pour marquer les contenants dans lesquels on va mettre les crèmes qu'on aura fabriquées pour bien dire je l'ai fabriqué tel jour, je le garde tant de jours. Et il y en a certains, ils se conservent même au frigo, je crois. Hein.
Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a une phase aqueuse, on met tout au frais, comme ça, on est sûr. C'est un peu comme lorsque vous cuisinez, hein, vous ne laissez pas vos plats préparés finalement chez vous, dans votre cuisine, vous les mettez au frais, bah, là, c'est exactement pareil.
Et tout se teste aussi avant, on est d'accord, hein, quand on a fait des cosmétiques maison, après, on va rentrer dans les recettes, hein, mais on teste dans le creux du coude, c'est ça, dans le pli du coude ?
Dans le pli du coude, là où la peau est assez fragile, assez sensible, on attend deux jours. S'il n'y a pas de réaction, là, on peut l'utiliser sur soi.
Merci Pauline Deheck. On va poursuivre cette discussion dans très peu de temps. Surtout, vous restez avec nous. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Pauline Deheck, spécialiste des cosmétiques maison, des produits naturels sans substances chimiques pour chouchouter notre corps sans danger. Alors Pauline, on va passer aux recettes à présent. Mais avant de commencer, dans votre livre, vous dites qu'en gros, si on veut se lancer, si on veut démarrer en achetant 5 ingrédients de base, on a nécessaire pour toute la routine beauté. C'est quoi ces ingrédients ? C'est 5 ingrédients qu'on peut avoir à la maison pour démarrer.
Exactement. Alors, le premier ingrédient, c'est avoir une huile sèche qui va servir à la fois de démaquillant et puis ça peut servir aussi d'huile nourrissante pour tout le corps et le visage.
Ça peut être une huile de quoi, par exemple ?
Alors, l'huile de noisette, qui est une très bonne huile. En plus, on en trouve de l'huile française. Donc, ça peut être intéressant.
Mmh. Ensuite,
On va avoir le gel d'aloe vera, qui est à la fois un hydratant, quelque chose qui va apaiser la peau aussi. On a aussi le beurre de karité, qui va être très nourrissant. Et là, en ce moment, c'est l'hiver pour tout ce qui est peau de croco, lèvres gercées. C'est un ingrédient brut qui va nourrir la peau et l'assouplir. On peut avoir un hydrolat aussi, on appelle
ça. C'est quoi un hydrolat ?
Alors,
pour moi, j'ai l'impression que c'est une tisane, mais je ne sais pas.
C'est un produit qui est issu de la distillation des plantes. On peut l'appeler eau florale quand ça vient d'une fleur. Mmh. Typiquement, le plus connu, c'est l'hydrolat de rose ou l'hydrolat de lavande, qui sont des lotions, finalement, qu'on peut utiliser.
C'est la base, en fait. Hein. Ça aussi, c'est une base pour après créer d'autres cosmétiques, hein, c'est ça ?
Oui, ça peut être une base qui remplace l'eau dans un cosmétique. Ou ça peut être une lotion tonique pour le visage, vraiment très douce. Quoi.
Voilà, et je crois qu'on peut avoir aussi une argile en plus pour compléter les 5 à la maison pour commencer. Si vous achetez ça, déjà, vous avez un bon kit de démarrage. Alors, on va passer quand même aux recettes. On va commencer par le déodorant maison. C'est vrai qu'on se méfie de plus en plus des déos dans le commerce. On a parlé beaucoup des sels d'aluminium qui pourraient potentiellement être toxiques. Hein,
on ne sait jamais lequel choisir. Ah, moi, je vais dedans, je regarde la liste, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais mettre sous mes bras ?
Il y en a quasiment partout. Donc, quand on se méfie, on a envie de savoir votre recette. Du coup, on met quoi dans un déo ? Les ingrédients d'un déo maison, c'est quoi ?
Alors, dans un déo maison, donc sous forme de baume, on va mettre du beurre de karité, de l'huile de coco qu'on va faire fondre. Ça va être vraiment la base de ce baume. Et on peut ajouter dedans une fécule. Donc, ça peut être une fécule de maïs ou là de l'arrowroot qui va absorber à la fois l'excès de gras du baume et puis la sudation. Et également du bicarbonate de soude qui va être le principe actif, entre guillemets, de notre déo ici.
Jimmy ?
Et on fait comment là ? On doit mélanger tout ça un peu n'importe comment ou il y a une règle ?
Alors, il y a quand même une règle. On fait fondre au bain-marie le beurre de cacao et le beurre de karité, excusez-moi, et l'huile de coco ensemble. Et puis, une fois que c'est fondu, on ajoute les poudres, l'arrowroot et le bicarbonate de soude qui est l'anti.
Et on
odeur.
Tartine ça tous les bras, sous les bras,
tartine,
tous les matins.
Exactement, ce tartine.
Ça marche, pour de vrai.
Ouais. Ça marche pour de vrai parce qu'en fait, le bicarbonate de soude, c'est ce qui va permettre de lutter contre la prolifération des bactéries qui sont à l'origine des mauvaises odeurs.
Exactement. Il y a pas de texture bizarre parce que je me dis mettre un truc de non.
Ça vous fait bizarre de mettre une crème sous les bras.
Crème sous les bras.
Mais non, c'est ni gras, ça tache pas les vêtements, ça fonctionne très très bien.
Et ça se conserve combien de temps à la maison ? Ça en pot, on peut le garder combien de temps ce déo maison ?
À peu près 6 mois.
Ah, quand même, ici, c'est pas mal. Ouais, oui, tout ça, le temps d'un déo, c'est à peu près ça. Hein, donc,
vous ne mettez pas souvent du dedans. Moi, ça ne tient pas 6 mois, mais dedans. Excusez-moi, faites un effort. 6 mois, du coup, ça coûte moins cher en plus.
Ça va,
mais 6 mois d'un déo, vous rigolez. Moi, il tient 2 mois grand maximum. En tout cas, quand on se douche tous les jours, Mélanie, je ne sais pas, mais c'est encore un autre débat. Mais si on tient ça 6 mois, est-ce que finalement, financièrement, c'est intéressant ou ça va nous coûter cher? Parce qu'on a l'impression que c'est des ingrédients qui peuvent aussi coûter un certain prix.
Alors là, le coût de revient du déo, il est à peu près entre 2 et 3 euros.
Ah oui, c'est pas très cher.
C'est économique.
Donc il dure beaucoup plus longtemps que votre déo industriel, Jimmy, et c'est beaucoup moins cher. On va passer à une deuxième recette, celle du liniment. C'est un produit un peu star là, en ce moment, des jeunes parents. Tout le monde nettoie les fesses de ses enfants avec ça, enfin la plupart des parents. On l'achète en gros pot comme ça, on sait que c'est un mélange un peu d'huile d'olive, de je sais plus trop quoi. Mais vous, vous proposez de le faire maison, finalement, apparemment, c'est assez simple et ça revient, j'imagine, moins cher. Comment on le fabrique, ce liniment maison?
Alors, pour faire du liniment, on a besoin d'une huile végétale. Donc, habituellement, c'est l'huile d'olive, comme vous l'avez dit, Mélanie. Mais moi, je propose de le remplacer par l'huile d'amande douce qui aura une odeur moins marquée et surtout un fini moins riche.
Ça fait moins salade, huile à salade sur les fesses de bébé, quoi. C'est ça,
ouais, moins vinaigrette, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on mélange de l'huile d'amande douce avec de l'eau de chaux. On peut rajouter de la cire d'abeille qui va permettre d'épaissir et surtout de stabiliser le produit dans le temps, éviter qu'on doive secouer finalement la bouteille à chaque utilisation.
Jimmy ?
Et ça coûte moins cher en plus du coup, on fait des économies là aussi ? Parce que ça c'est des choses qu'on trouve chez le pharmacien. L'eau de chaux, on trouve ça où ?
L'eau de chaux, on peut la trouver en pharmacie ou on peut la trouver dans les boutiques spécialisées dans la fabrication de cosmétiques maison.
D'accord,
et ça coûte beaucoup moins cher. De toute façon, tous les cosmétiques faits soi-même, ça coûte nettement moins cher que de les acheter dans le commerce.
Juste un petit bonus là, je veux dire une petite recette que j'avais pas prévue mais que je vois dans votre bouquin, le gommage peau de banane, c'est quoi ce truc là? J'adore, moi je sais pas pourquoi. La peau de banane, je la jette, mais vous nous dites qu'il faut la mettre sur le visage en fait, c'est ça?
Alors comment? On recycle, dans le même temps ça vous pousse à manger des bananes aussi, c'est bon pour la santé. On récupère la peau, donc fraîche, on saupoudre d'un peu de sucre, donc un sucre assez fin quand même, et puis on se passe la banane sur le corps. Ça peut être le corps mouillé, sous la douche par exemple, et ça permet de faire un gommage et en même temps de profiter des vertus de la peau de banane.
Il y a quoi dans la peau de banane qui nous intéresse?
Alors ça va être riche en mucilage et donc c'est quelque chose qui va permettre d'adoucir la peau, d'hydrater en surface aussi.
Vous saviez ça, Jimmy? Vous en faites quoi des peaux de banane, vous, habituellement?
Moi, en général, mes enfants les jettent dans la voiture et les laissent moisir et je m'en rends compte au bout de quelques jours. Donc la prochaine fois, j'en mettrai sur mon visage.
C'est ça, voilà. C'est ça, super. Alors vous allez nous donner une autre recette maintenant, celle d'un petit sérum hydratant, un peu protecteur. Là, il fait froid, on est un peu la peau agressée par tout ce froid. Comment on le fait, ce petit sérum hydratant à la maison? On peut mettre quoi dedans?
Alors un sérum, c'est un mélange d'huile végétale qu'on va pouvoir choisir en fonction de son type de peau, peau grasse, peau sèche.
Pour Jimmy, la peau grasse à boutons, on met quoi du coup?
Alors peau grasse à boutons, on met de l'huile de noisette. J'en parlais tout à l'heure, qui est une huile sèche, qui va permettre de réguler aussi la sécrétion de sébum. Oui. Et on mélange cette huile végétale avec une huile essentielle, pareil au choix. On peut mettre à peu près pour 30 ml d'huile, 7 gouttes d'huile essentielle. Et là, typiquement, pour l'huile essentielle purifiante, on peut utiliser le tea tree ou le romarin à verbenone, qui sont des huiles essentielles assainissantes.
Ça va vous faire du bien, Jimmy.
Non, mais vous moquez de moi. Non, mais c'est des super conseils. Non, mais c'est vrai, le déodorant, le liniment, ce qu'on met sur le visage, souvent ce qu'on achète, ça coûte plutôt cher, pas forcément de qualité. Donc là, on a des recettes maison. Non, ne vous moquez pas de moi, Mélanie. Ouais.
Mais donc, c'est vrai qu'il faut adapter. C'est-à-dire que vous avez des bases. À chaque fois, vous dites souvent une huile sèche ou un beurre. Ou voilà. Mais par contre, en fonction du type de peau, il y a telle ou telle matière première qu'on choisit. Hein, c'est ça. C'est pour les peaux sèches, par exemple, on choisira plutôt quoi comme produit à mettre dedans?
Alors c'est clairement l'avantage de la cosmétique maison, c'est de personnaliser ses produits. Pour une peau sèche, on peut mettre l'amande douce, l'huile d'olive pour une peau vraiment très très sèche. Hein, ça permet aussi d'utiliser ce qu'on a dans ses placards sans forcément investir énormément. On peut mettre une huile de bourrache aussi pour les peaux sèches et matures.
D'accord, il y a pas mal de choix, mais tout ça, toutes les recettes sont dans votre livre. Vous avez parlé un petit peu des huiles essentielles qui donnent souvent aussi une bonne odeur, très agréable à appliquer sur le corps. Mais les huiles essentielles, vous le dites dans votre livre d'ailleurs, il faut faire très attention, c'est pas pour tout le monde. Pour qui on évite vraiment qu'on le sache?
Alors les huiles essentielles, c'est un concentré d'actifs assez puissant, issus des plantes. Et donc, il faut être vigilant quand on est enceinte, quand on allaite, quand on est épileptique, quand on a une santé qui est fragile d'une manière générale, et aussi les enfants. Les enfants de moins de 6 ans, il faut être vigilant par rapport à ça.
Très bien, merci beaucoup Pauline Deweck d'être venue sur notre plateau nous apprendre donc quelques rudiments de la fabrication des produits beauté maison. Je rappelle le titre de votre livre, Ma cosmétique minimaliste, le guide pratique des cosmétiques maison, paru chez Thierry Soucard Édition. Merci encore.
Merci Mélanie.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les maux du quotidien. Et aujourd'hui, on parle des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Savez-vous qu'elle cause une centaine de décès chaque année? Savez-vous reconnaître les symptômes d'ailleurs de cette intoxication et comment l'éviter? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
L'intoxication au monoxyde de carbone.
Pour moi, c'est lié à la pollution des voitures surtout, c'est-à-dire les pots d'échappement.
On cuisine avec le gaz toute l'année, plus en hiver parce que peut-être en air, pas autant qu'en été.
Est-ce que ça s'échappe de quelque chose qu'on a chez soi?
Et j'ai entendu par ailleurs que l'endroit le plus pollué, c'est à l'intérieur des maisons, qu'il faut aérer. Donc moi, je suis une gaga d'aération, mais tous mes gamins, tous les jours, je ouvre toutes mes fenêtres.
Je pense que c'est dû souvent aussi à des problèmes de vieux chauffage ou autres qui peuvent prendre feu ou autre. Il faut endormir. Une personne âgée ne va pas se réveiller parce qu'elle est dans son sommeil et ne se rendra pas compte. Parce que je pense qu'avec l'âge, on sent moins les choses et voilà.
Ah mais j'imagine qu'effectivement, le gaz est un peu traître, parce qu'effectivement, c'est peut-être indolore.
Je sais pas, ça te met dans les vapes et puis tu peux peut-être mourir.
Mais c'est grave parce que du coup, ça atteint les poumons et on étouffe et on peut en mourir, ouais.
Alors Jimmy, l'intoxication donc au monoxyde de carbone, c'est chaque année, donc je viens de le dire, une centaine de décès. Mais la période la plus critique, c'est vraiment en ce moment. Hein.
Oui, vous l'avez dit, c'est la première cause de mortalité accidentelle d'origine toxique. Et seuls 70% des intoxications sont diagnostiquées. Alors ça augmente au fur et à mesure que les températures baissent, car c'est lié au fait à un système de chauffage souvent qui est défaillant.
Quand il fait froid, on rallume les chauffages.
Exactement.
En fait,
et le problème, c'est que ce gaz, il est invisible, évidemment, parce que c'est un gaz. Il est inodore, donc on ne le sent pas. Il n'est pas irritant.
En plus,
et indétectable. Et donc à ce moment-là, on peut avoir des symptômes sans
s'en
rendre compte. Et on met en cause effectivement les combustibles, donc tout ce qui est gaz naturel, le bois, le charbon, le butane, le propane, l'essence. Et donc tout ce qui est susceptible de nous chauffer, notamment dans cette période d'hiver.
Quand ça fonctionne mal, ça peut produire du monoxyde de carbone. Alors pourtant, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, des gestes simples, Jimmy, permettent de vraiment réduire drastiquement les accidents.
Eh bien oui, donc avant l'hiver, il faut systématiquement faire vérifier, entretenir les systèmes d'installation de chauffage et de production d'eau chaude, ainsi que les conduits de cheminée de fumée. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut ramoner la cheminée.
Chaque année,
par un professionnel, effectivement, ouais, qui serait qualifié.
Moi, je le
tous
fais
les
chaque
jours.
Année.
Ouais, vous ramenez. Vous avez une cheminée,
ouais,
d'ailleurs,
je vais faire
dit,
la cheminée.
Vous ramenez la cheminée. Et il faut aérer le logement tous les jours, même quand il fait froid, au moins 10 minutes. Et un invité nous avait dit que ça permettait aussi d'éliminer des perturbateurs endocriniens, dont le principal réserve en la maison, ce sont la poussière. Donc on aère la 10 minutes par jour. On évite d'obstruer les systèmes de ventilation, donc on n'obstrue pas. Et puis on respecte les conditions d'utilisation des chauffages. Ce n'est pas le moment d'utiliser le barbecue à la maison, parce qu'à ce moment-là, on risque de faire une intoxication. Et on n'utilise pas, effectivement, notamment une cuisinière qui serait un peu défectueuse. Donc quelques règles simples pour éviter de tomber intoxiqué.
Et oui, par contre, c'est quand même, excusez-moi, j'ai un petit fou rire, ça arrive de temps en temps. C'est quand même savoir, donc il y a des signes, par contre, quand on est intoxiqué, c'est quoi ces premiers signes?
Alors le problème, c'est que le monoxyde de carbone, exactement. Le problème, c'est que le monoxyde de carbone entre en compétition avec l'oxygène qui se fixe sur l'hémoglobine. Donc il y a des symptômes liés à l'hypoxémie, le fait d'avoir monoxygène. Mais en plus de ça, le dioxyde de carbone est directement toxique sur certains tissus et ça commence par des maux de tête, des nausées, des vomissements, sans diarrhée, un malaise qui survient dans une collectivité où plusieurs personnes auraient tout d'un coup les mêmes symptômes.
Ça doit
immédiatement vous faire suspecter une intoxication au monoxyde de carbone. Premier réflexe, on aère la pièce, on fait sortir les gens et on appelle le 15 ou le 17 car c'est une urgence vitale.
17, 18 plutôt, non?
18 ans, 17, c'est la police pendant le 15 ou le 18 ou éventuellement le numéro d'urgence qui est le 112.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Claudia.
Bonjour Mélanie.
Alors, dans votre livre, vous expliquez comment et pourquoi la musique est un outil fondamental au service de l'épanouissement des enfants, des tout-petits, cela dès la naissance, même avant, on en parlera. Mais je crois que d'une façon plus globale, votre ouvrage s'inscrit totalement dans ce qu'on dit aujourd'hui. On s'est rendu compte vraiment de ce consensus de l'importance des 1000 premiers jours, hein, c'est ça, de l'enfant.
Il se trouve que c'est une actualité, puisque le président Macron a lancé la commission des 1000 premiers jours avec 17 sages qui travaillent sur le parcours de la parentalité. Et ça amène une prise de conscience de l'importance des 1000 premiers jours. Donc c'est un moment formidable, parce que jusqu'à présent, on avait tendance quand même à se dire, un bébé, bah, ça mange, ça boit, ça dort.
Et puis voilà,
il n'y a plus grand-chose qui se passe. Sauf que non, c'est là où l'essentiel se passe. Beaucoup de choses se passent et de façon déterminante.
Et vous, la musique, justement, elle a sa place intégralement hein, dans ces 1000 premiers jours. Vous, dès la naissance, vous préconisez ça comme un outil. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, que vous avez expliqué expérimenté, que vous expérimentez encore, dans le réseau de crèches que vous avez créé, que vous avez fondé. Ça s'appelle Cap Enfant. Ça fait plus de 10 ans que vous faites ça, vous utilisez la musique. C'est quoi concrètement ce réseau de crèches ?
Ça fait 15 ans que nous utilisons la musique et c'est le vecteur clé, c'est-à-dire que c'est plus que de l'éveil musical, la musique est vraiment la trame de fond. On rentre dans un voyage musical par l'ouïe, donc c'est un voyage multisensoriel, ludique, et ensuite on touche les autres sens qui sont bien sûr le toucher, la vue, le goût et l'olfaction également.
Jimmy ?
Et justement, l'éveil des tout-petits avec justement ce monde sonore, le monde musical, c'est quelque chose qui a été prouvé au travers des neurosciences, on a des preuves scientifiques de l'effet bénéfique ?
Oui, depuis 20 ans, en fait, énormément d'articles scientifiques sont sortis, mais il y a beaucoup d'ouvrages, et notamment grâce à l'élaboration d'outils tels que l'IRM, encéphalogramme, etc., qui permettent de façon non intrusive de prouver ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, on peut observer ce qui se passe, les réactions du fœtus, on peut observer un nouveau-né, on peut voir ses réactions, on peut voir la zone de parole s'éveiller, on peut voir
ce qui
se passe
cerveau. Quand on confronte à de la musique.
Exactement,
hein,
voilà, tout ce qui bouge. Donc ça, c'est déjà une grande avancée, une grande percée qui permet de soutenir tous ces articles. Et il y a beaucoup de travaux qui sont sortis et de chercheurs, notamment Isabelle Pérez, qui est une Canadienne neuroscientifique qui travaille depuis 30 ans dessus. Mais il y a aussi des Français, Manuel Bigan, Hervé Platel, plein de chercheurs qui commencent à faire paraître maintenant des articles au grand public.
Alors Claudia, d'abord, dans votre livre, vous expliquez la musique pour avoir un bébé épanoui, c'est très utile, mais qu'on peut commencer finalement dès la vie fœtale. C'est pas, on n'attend pas d'avoir juste un bébé, on peut le faire avant ça, hein, c'est ça ?
Parce qu'en fait, l'enfant est dans un environnement musical in utero lui-même. Il est soumis à des battements, enfin à des rythmes qui sont les battements cardiaques, qui sont les pulsions du sang, la respiration, enfin beaucoup d'éléments rythmés.
C'est très bruyant en fait. Hein.
En fait, c'est jamais silencieux. Il y a du rythme et du son, donc de la mélodie, donc de la musique. Et l'enfant, il grandit dans cet environnement musical et c'est ça qui permet aussi sa maturation du cerveau et notamment sur le plan langagier, puisque tout ce qui est l'écoute, l'ouïe se développe et l'enfant, en fait, in utero, donc le fœtus, apprend déjà à parler, se familiarise avec le langage in utero, mais pas que seulement avec le langage, avec plein d'autres choses aussi.
Et ça commence tout petit, hein, l'embryon déjà, hein, c'est ça ?
C'est l'embryon, c'est assez fascinant de s'imaginer que déjà à 9 semaines, l'enfant perçoit de façon tactile, pour le coup, les sons, et les sons graves, hein, ça c'est quelque chose que l'on garde ensuite à vie, on sent les pulsations sur la peau, et ensuite l'oreille avec sa construction qui est assez complexe, prend le relais entre 4, 5 mois. Là, les articles scientifiques arrivent de plus en plus tôt.
Jimmy ?
Et en pratique, qu'est-ce qu'une femme enceinte peut faire ? Chanter, écouter de la musique ?
C'est ça. Déjà, prendre conscience, je pense, de l'intérêt, de l'importance de la musique et du chant. Donc, chanter, écouter de la musique. Alors, bien sûr,
même
jamais mettre...
Même quand on chante faux, c'est pas grave.
Mais peu importe. En fait, ce qui passe au travers de la voix, c'est l'émotion.
Donc, on va pas le faire souffrir si on chante comme une casserole, l'enfant.
Pas du tout. Pas du tout. On va lui faire du bien parce qu'à partir du moment où on a du plaisir soi-même à chanter, à danser, à écouter de la musique, l'enfant le perçoit. Et ça, c'est extrêmement bon pour son développement cervical, cognitif et tout ce qui va avec.
Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que ce bébé, il a des petites oreilles en formation sensible. On ne colle pas une enceinte avec du hard rock près du ventre si on aime ça.
Surtout pas. Alors, jamais coller d'enceinte sur le ventre puisqu'il pourrait faire caisse de résonance et là, ça serait dramatique.
Alors ensuite, il y a la naissance et vous dites qu'à ce moment-là, le bébé, il entend comme jamais il entendra de sa vie.
C'est ça. C'est ça. Et c'est assez extraordinaire. En fait, l'enfant, il naît avec une oreille musicale. Il naît avec un cerveau câblé musicalement. Pourquoi ? Parce que c'est parce qu'il a grandi dans cet environnement musical qu'il entend musicalement. Et c'est le fait d'entendre musicalement qui va lui permettre d'apprendre à parler, mais pas que, il y a aussi l'aspect social.
Timmy ?
Et justement, comment exploiter cette capacité auditive hors du commun dès la naissance ?
C'est justement agir, enfin être beaucoup dans l'interactivité avec l'enfant. Et là, c'est aussi un peu l'objet de la commission des 1000 jours. Mais l'interaction avec l'enfant est extrêmement importante. Donc, tout ce que l'on peut faire, chanter, interagir avec l'enfant, d'abord la maman, le papa, mais aussi tous les proches, va conduire l'enfant à découvrir son environnement avec tous ses sens. Et ça, ça va le construire dans ses émotions, sur le développement cognitif.
Et ça l'aidera à apprendre à parler aussi. Hein,
et ça va l'aider à apprendre à parler parce qu'il va entendre des sons, il va les associer, il va entendre biberon, il va associer ça au biberon. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à parler.
Et puis, ce qui est très intéressant avec la musique, vous expliquez que ça favorise plusieurs sens à la fois, vous venez de le dire. C'est l'ouïe, la vue, le toucher. C'est un peu moins clair. L'ouïe, je comprends bien, mais le toucher, comment tout ça, c'est lié en fait?
Le toucher, c'est aussi lié avec justement cette capacité que l'on a de sentir les sons graves. Donc l'enfant, il
sent la musique dans sa peau, quoi.
Il perçoit beaucoup. Il est très sensible au toucher. Il perçoit vraiment les battements graves, enfin tous les sons graves, les fréquences graves au travers de la peau. Et puis ensuite, le toucher, c'est aussi la motricité, c'est bouger, c'est se balancer, c'est être dans le rythme.
Jimmy?
Donc il y a la musique, et là vous parlez de rythme et de tempo, ça a aussi une importance?
C'est essentiel, et ça c'est quelque chose qui m'a stupéfaite parce que c'est pas connu, mais en fait très, très étayé dans les articles scientifiques. On grandit dans un environnement rythmique. Cet environnement rythmique, l'enfant, il apprend le rythme, donc la pulsation. Il apprend à anticiper la pulsation et à répondre au bon moment. Ça, ça parle de synchronisation. Ce qui veut dire que quand l'enfant naît, il va se synchroniser. C'est ce qui va lui permettre de se synchroniser avec les personnes, son entourage. Donc, l'écouter, répondre au bon moment et commencer à être dans les interactions et donc dans la relation. Donc, le rythme...
Le rythme même de la langue française, hein. Vous dites, bon, parce qu'on est en France,
rythmes,
hein, mais un enfant africain, il va être rythmé au langage de la, enfin, à une autre langue. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est chaque enfant qui naît dans un pays, il est préparé à ce rythme-là de sa langue maternelle, hein, c'est ça?
Et de sa langue maternelle, de la musique, etc. Mais c'est le rythme qui lui permet de devenir un être social. Et ça, je trouve ça assez énorme.
Et c'est utile aussi pour les enfants un peu plus grands. On va parler après de ce que vous faites en crèche, évidemment. Mais pour un enfant de 10 ans, par exemple, il y a encore une utilité à utiliser la musique. Ça va lui servir à quoi?
Il y a énormément... Là, on parle donc de l'aspect social et langagier. Mais il y a énormément de bénéfices, de bienfaits qui vont être au niveau de la lecture, qui vont être au niveau des mathématiques, de la...
C'est-à-dire des mathématiques. Comment la musique, ça rentre dans les mathématiques?
La musique...
Jimmy, elle a l'air un peu circonspect.
La musique, elle a une structure mathématique. Elle a des rythmes, c'est très logique et c'est très complet. Donc, c'est cette appréhension de ces rythmes et de
les tables
ces
de multiplication,
temps
par
qui
exemple.
Ne doivent pas être... alors ça, c'est encore autre chose. Les tables de multiplication, là, c'est pour apprendre, c'est pour mémoriser. Après, il y a la concentration.
Et les apprendre en chantant, c'est ça, en fait.
Exactement.
L'idée.
Donc là, on touche plusieurs,
vous imaginez,
plusieurs sens et plusieurs axes. Et ça permet de mieux mémoriser.
Pourquoi pas, si ça peut être une méthode pour que les enfants progressent, oui.
Complètement. Donc, il y a énormément de bénéfices qui sont bien au-delà du langage et de l'aspect social. C'est sur les apprentissages de scolaires, notamment.
Donc, la musique à tout âge. Alors, Claudia Quespillay, on va continuer cette discussion dans quelques minutes. Bien sûr, vous restez avec nous. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, Claudia Quespillay, spécialiste en pédagogie musicale. Elle a aussi fondé un concept de crèche musicale. Ça s'appelle Cap Enfant. Alors, Claudia, maintenant, on va parler de ce que vous proposez quand même aux bébés, aux jeunes enfants que vous accueillez dans vos crèches. Donc, chez vous, la musique, elle est partout. C'est un outil d'éveil, d'apprentissage, on l'a compris, d'éducation même. Et ça va, chez vous, ça démarre dès les premiers jours d'adaptation en crèche, je crois. Vous leur proposez quoi quand ils arrivent à deux mois et demi, trois mois, hein, c'est ça, les plus petits, c'est cet âge-là.
La musique, elle est par petites phases, hein, c'est pas constamment, elle est par petites phases, mais tout au long de la journée, et y compris pour les bébés, ce qui est assez nouveau, parce que d'habitude, il n'y a pas beaucoup d'activités pour les bébés. Et là, les bébés, donc 0 à 1 an, bénéficient de morceaux de musique, de petites comptines, et ils peuvent aussi aller avec les professionnels dans la bulle musicale, écouter, découvrir.
On va parler de la bulle après, mais voilà. Plus en détail.
Voilà, j'anticipe un peu, mais et aussi avoir des interactions avec des enfants plus grands qui sont présents dans l'atrium, par exemple, et qui vont chanter, danser, ou on va avoir des musiciens qui vont jouer d'un instrument de musique.
Alors vous dites l'atrium, il faut quand même expliquer aux gens que vos crèches, elles sont construites, même au niveau architectural, d'une façon particulière. Hein,
voilà,
c'est ça,
c'est un peu en marguerite, il y a la place centrale qui est un peu la place du village, et au milieu de la place du village, il y a la hutte qui est la bulle musicale, et tout autour, les sections de vie. Donc voilà, c'est un peu cette disposition.
Jimmy ?
Il y a aussi, j'ai cru comprendre, un sas sonore dès l'espace vestiaire qui permet de séparer la crèche du monde extérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est ?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est que lorsque les parents et les enfants arrivent dans le sas, ils puissent déconnecter soit avec leur environnement professionnel, soit avec l'univers de la maison ou
les
la
bouchons,
voiture,
la
les
pluie.
Bouchons, etc. Tout ce stress, et rentrer dans cet environnement.
Ça vous ferait du bien, vous, Jimmy, le matin, ça.
Je pense que oui, on serait peut-être un peu plus aimé.
Voilà, bon, bah, voilà, cette fonction de déconnexion et de connexion aussi avec ce nouvel univers de la crèche.
Et donc, la bulle musicale, on y vient quand même. C'est quoi votre bulle ? Parce que c'est quand même quelque chose que vous avez créé, inventé. C'est génial, ouais. Expliquez-nous. Bah, alors, c'est un peu visuel, dommage, on ne le voit pas là, mais bah, expliquez-nous, décrivez-nous
là. C'est la forme d'un igloo. On peut être 10, 12 dedans avec un groupe d'une dizaine d'enfants. Et il y a des portes, enfin, il y a des ouvertures sans porte et les enfants pénètrent. C'est donc un outil pédagogique multisensoriel. Les enfants pénètrent dans cette petite salle, en fait, en forme d'igloo, et ils vont appuyer sur des zones tactiles qui vont déclencher des sons qui sont sur les parois à différentes distances et qui vont déclencher des sons qui sont des sons d'animaux, des sons de musique, de comptines, d'instruments, des ambiances sonores ou des paroles. Et donc, l'enfant va être acteur. Ça, c'est extrêmement important. C'est lui qui va décider si oui ou non il a envie d'écouter quelque chose et ce qu'il a envie d'écouter, ce qui donne des histoires assez incroyables de ce point de vue.
Et il y a de la lumière aussi, hein, de la simulation visuelle aussi, je crois.
Alors, il y a de la lumière que l'on peut tamiser aussi. Elle est pas, on n'est pas du tout dans une boîte de nuit, on est vraiment, on va adapter en fait l'intensité lumineuse en fonction de l'ambiance que l'on a envie d'obtenir.
Bon. Et je crois qu'il y a même un micro à l'intérieur de la bulle. Ouais. Ça sert à quoi ça, ouais. C'est pour apprendre à parler notamment aussi.
C'est
hein.
aussi pour apprendre à écouter sa propre voix et les enfants adorent ça et chanter en plus sur une chanson et entendre sa propre voix devant un petit groupe d'enfants, ça travaille la valorisation, ça travaille l'estime de soi, la confiance en soi, c'est fabuleux pour les enfants.
Jimmy ?
Et qu'est-ce que vous faites d'autre justement pour stimuler et faciliter l'apprentissage du langage, notamment grâce au son et à la musique ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Bah, les enfants en fait entendent énormément de sons et ces sons qui sont par exemple on va dire des animaux où on va écouter une histoire musicale, donc on va voir un puma et puis on va voir tout d'un coup une trompette et on va inventer une histoire en disant ben voilà il y a le puma qui va jouer de la trompette, mais ça c'est les enfants qui composent, donc ils travaillent leur imagination et leur créativité et en faisant ça ils travaillent de nouveaux des nouveaux univers de mots de langage qu'ils ne sont pas l'univers quotidien du langage dans la crèche. On va parler tout d'un coup, si on part en Australie, de didgeridoo, du kangourou, on va parler de la steppe, on va parler de la mer. Et ce sont des environnements avec des mots qui vont permettre à l'enfant de découvrir, d'écouter, de jouer avec des sons. Alors, dans un premier temps, il va entendre le mot didgeridoo, puis après, il va répéter ce mot-là, qui n'est pas forcément facile. Mais là, justement, on travaille la mémoire, la concentration et les enfants le répètent avec beaucoup de plaisir.
Et ils parlent tous à 7 mois dans cette crèche. Vous les mettez à plusieurs d'ailleurs, je crois que vous venez de le dire. Ça aide aussi à la sociabilité, hein, c'est ça,
c'est
pour
ça.
La musique, ce lien.
Exactement.
Ouais, c'est ça, hein.
Ils jouent beaucoup ensemble, c'est-à-dire que alors, déjà, ils vont interagir à écouter, appuyer sur les zones tactiles par exemple et puis découvrir un loto sonore. Donc c'est le premier qui va découvrir le loto sonore. On va d'abord entendre un son, il va falloir deviner ce que c'est, puis ensuite l'image apparaît. Et c'est une image statique. Et donc l'enfant, il va deviner, c'est le premier qui devine. Après, on va écouter une chanson, on va la chanter. Donc les enfants vont chanter entre eux, et c'est celui qui va chanter un peu plus fort. Il va y avoir de la manipulation d'instruments aussi, mais des instruments comme des violons ou des didgeridoo, enfin ce genre d'instruments un peu particuliers. Et à ce moment-là, eh bien, il faut écouter, il faut respecter son tour, il faut écouter le copain, il faut être concentré, attendre. Et ça, ce sont des règles de vie sociale.
Alors, je reviens sur les plus petits, les enfants de 3-7 mois. Vous expliquez dans votre livre que le bébé à cet âge-là, il a une écoute très active, il est très sensible et qu'avec eux, bah, vous pouvez par exemple leur faire découvrir des instruments étrangers. Vous avez parlé du didgeridoo, mais par exemple, il y a aussi cet instrument japonais. Je vous laisse écouter un petit morceau. Thank you. Alors, cet instrument, vous allez nous dire comment il s'appelle. C'est un instrument japonais.
C'est... Le misatobu.
Très bien. Et ça, ça permet quoi avec les enfants d'écouter ça?
D'entendre...
C'est assez aigu, c'est joli.
Voilà, d'autres univers sonores qui sont différents de leur environnement naturel, franco-français, s'ils sont dans cet univers-là, ou bilingue, etc. Et ça, c'est extrêmement important, notamment parce qu'entre 0 et 1 an, le jeune enfant a une capacité auditive totale et universelle. C'est-à-dire qu'il est en capacité d'entendre toutes les langues du monde et toutes les musiques du monde, et de discerner les dissonances, les consonances,
ah oui,
etc.
Donc plus fort que vous, Jimmy, en musique. Vous
avez...
plus fort que nous trois, que nous tous adultes. Et ça, c'est assez stupéfiant, parce qu'un jeune enfant va entendre parler hindi, il va discerner des subtilités de l'accent que ni vous, ni moi, Mélanie, ne discernerons
plus. Vous imaginez un
Donc,
peu, Jimmy.
Ça, c'est, une capacité formidable, et si on permet à ces enfants de continuer d'entendre cette variété de sons, on leur donne un peu des outils pour que derrière, ils puissent effectivement mieux apprendre des langues étrangères, mieux discerner des sons, peut-être être moins dyslexique, etc. Mmh.
Alors, la musique, ça contribue aussi au bon développement de la motricité. Et là, vous pouvez utiliser dans vos crèches, par exemple, des mélodies plus rythmées comme ça. Ça vous plaît, Jimmy, non?
Ah, ils ont beaucoup de ça, effectivement. Mais voilà. Oui, ils adorent ça.
Et ça danse, ça bouge, c'est ça l'idée, en fait, hein, de mettre des choses plus rythmées. Vous parlez, il y a aussi le djembé que vous utilisez parfois.
Voilà.
L'idée de la musique, ça a fait du bien au développement, on va dire, psychique, mais aussi moteur, hein, c'est ça?
Exactement, moteur, parce que là, de nouveau, il y a aussi cette idée de vivre ensemble, d'être en synchronisation, de danser ensemble. Ça développe aussi l'empathie, hein, la musique, ça c'est aussi impressionnant. Et ça, c'est au travers notamment du rythme. Un enfant, naturellement, ira plus vers une personne qui sera dans le rythme que pas dans le rythme.
Ah, c'est méchant ça, parce que celui qui danse mal et qui...
Ah, je comprends mieux pourquoi mes
vous
enfants m'évitent.
Vous n'aviez pas d'amis quand vous étiez enfant.
Oui, mais je comprends mieux. Ben oui, effectivement, ben voilà, tout s'explique.
Ben voilà. Voilà.
Et je crois qu'ensuite, vous tenez compte de l'identité musicale de chaque enfant,
oui.
Et que ça voudrait dire qu'après un an, il aurait déjà des goûts en matière de musique.
Mais déjà, quand il arrive, l'environnement fœtal dans lequel il a grandi lui a donné déjà certaines appréciations.
Et Jimmy raconte toujours que vous aimiez déjà le rap tout petit.
Ah oui, mais comme quoi, voilà, ça n'a pas changé 33 ans plus tard. 32,
voilà, donc cet environnement-là, il est déjà vraiment dans le cerveau musical de l'enfant. Le fait d'ouvrir ou de... tenir compte de cette identité musicale permet à l'enfant de sentir des repères qui sont des repères de la maison. On a une petite fille notamment qui est arrivée en crèche, qui ne parlait pas en français et qui parlait que tamoul. On était dans notre voyage en Inde, elle a entendu du tamoul et elle s'est ouverte, elle a été rassurée. Donc ça, c'est extrêmement important parce que l'enfant se sent plus en confiance. Et
bon, on mettait du flamenco quand j'étais petite parce que Gomez, vous voyez,
oui,
je me sentais
oui.
beaucoup mieux. Ah oui, voilà. ça sert vraiment à tout ça, c'est incroyable.
Donc voilà, ouais. Et ça, il y a une autre histoire qui
m'a... Et ça permet de les valoriser, c'est ça, parce que vous dites cette petite fille tamoul qui tout d'un coup s'ouvre. Là, c'est parce qu'elle s'est reconnue dans quelque chose qu'elle avait peut-être plus l'habitude d'entendre. La musique, c'est ça, ça permet de renforcer aussi la confiance en soi pour l'enfant, hein, c'est ça?
Exactement, parce que l'enfant, il va jouer avec il va chanter devant les autres enfants,
donc
il va être valorisé,
scène,
il va se mettre en scène, on va encourager, il y a une histoire d'une petite fille qui n'osait pas tellement chanter devant les autres, et puis finalement la professionnelle l'a encouragée, puis elle a fini par bomber le torse et chanter, être très contente. Une autre petite fille chantait le tube du mois, parce qu'on a le tube du mois dans la langue du pays, et elle est allée dans chacune des sections chanter le tube du mois.
Alors c'est pas Bouba et Caris, hein,
Mais c'est chacun ses références, hein, Mélanie. Ça,
c'est la comptine russe ou... autre chose.
Voilà, mais ça, c'est des marques de reconnaissance. Oser chanter devant les autres, se produire déjà tout petit, c'est pas forcément facile pour...
Oui, ça permet de se positionner dans le groupe. Ça aussi, la musique, ça aide à ça.
Exactement.
Hein, c'est ça. Et dans cette pédagogie musicale, vous nous l'avez dit déjà plusieurs fois, mais vous leur faites vraiment découvrir des musiques d'ailleurs. Et c'est ce que vous appelez d'ailleurs donc le voyage musical. Il y a la bulle musicale et le voyage musical. Chaque mois, vous êtes dans un pays, j'ai l'impression, comme cette musique mexicaine. Je vous propose d'écouter un petit bout.
Guapan. Guapan.
Ah, finalement, la musique mexicaine, ça a l'air de vous plaire aussi, Jimmy. Hein,
oui, c'est pas mal, aussi, la nourriture mexicaine. Non, mais tout va bien, c'est sympa.
Et ça, ça fait partie des initiations. Alors bon, là, c'est de la musique, il n'y a pas de chant derrière. On n'entend pas les gens qui parlent mexicain et tout ça. Mais leur faire connaître donc, des musiques étrangères, des chansons étrangères, avec, ça a vraiment prouvé ça, que ça aide à apprendre les langues étrangères par la suite.
Oui, 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 ça c'est prouvé. Ça maintient cette capacité universelle que l'enfant a naturellement jusqu'à à peu près un an. Et dans cette période sensible jusqu'à 3-4 ans, qui est la période sensible de l'acquisition du langage, plus l'enfant entend des sons différents, plus il va jouer avec et plus il va les combiner. Et ça, c'est justement le propre de l'apprentissage du langage.
Donc nous, on peut le faire aussi à la maison, leur faire écouter des chansons mexicaines, australiennes, je ne sais quoi.
C'est d'une richesse pour l'enfant, pour soi déjà, et puis pour l'enfant, et c'est un partage de plaisir et d'émotions extraordinaires.
Et ça peut les aider justement dans l'entrée à l'école. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que ces enfants-là ont peut-être certaines acquisitions plus rapidement ou de meilleure, on va dire, qualité?
Oui, il y a beaucoup d'études qui prouvent un peu à tous les âges, dès la maternelle, mais jusqu'à l'adolescence, que les enfants développent effectivement sur le plan cognitif une meilleure lecture, un meilleur vocabulaire, un meilleur langage, de la créativité, de l'imagination, une forme d'aisance que l'on retrouve aussi dans les relations, avec une forme d'empathie, la capacité de concentration, de mémoire. Ça, c'est ressorti dans à peu près toutes les études qui ont été faites, que ce soit en Europe et aux États-Unis particulièrement.
Et alors, ça a l'air quand même génial, vos crèches. On a tous envie d'y mettre nos enfants, hein, Jimmy. Mais bon, j'imagine que les enfants dans vos crèches, ils sont comme tous les autres enfants. Il y a des jours où ils sont en colère, il y a des jours où ils sont fâchés, il y a des gros chagrins, ils n'ont pas envie d'écouter de musique. Ça sert aussi à ça, la musique, alors à les faire évacuer un peu aussi, parce que du négatif, il doit bien y en avoir aussi. Il y a des pleurs dans vos crèches aussi.
Partout, partout, absolument. Et ça, justement, la musique est un bon véhicule aussi pour externaliser. Ces émotions. Bah, par exemple, on utilise le djembé. On va commencer avec des enfants qui sont un peu excités. On va commencer par les faire taper sur le djembé très très fort. Et puis ensuite, on va baisser et on va diminuer le rythme petit à petit jusqu'à ce qu'on tapote comme une petite fourmi qui tape sur la peau du tambour. Donc, et les enfants rentrent dans cette, dans ce jeu.
Alors, pour terminer, juste les enfants qui sortent de vos crèches après avoir passé, je ne sais pas, 3 années passionnantes bercées dans la musique, ça devient quoi? Des virtuoses derrière de la musique? Il y en a peut-être qui ont réussi, mais ce n'est pas le but quand même non plus. Hein.
Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'ils soient bien dans leur peau. Mais de fait, il y a effectivement beaucoup d'enfants qui demandent à leurs parents de jouer d'un instrument. Donc, ils vont commencer avec la guitare.
Depuis 15 ans, là, vous n'avez pas un petit virtuose ou deux là, qui sont sortis?
Alors, écoutez, en tout cas, il y a une proportion bien supérieure à la moyenne nationale d'enfants qui sont dans des écoles de musique ou en conservatoire, etc., avec des parents qui initialement n'étaient pas avec cette appétence.
Merci beaucoup Claudia Caspiaï d'être venue sur notre plateau nous faire découvrir la pédagogie musicale et ses bienfaits chez les tout-petits. Je rappelle le titre de votre livre, Petite enfance, de la musique avant toute chose, aux éditions Dunod. Merci encore.
Merci Mélanie, merci Jimmy.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, et elle arrive à l'instant, Catherine Blanc, notre psychanalyste, et sexologue Catherine. Vous allez bien, Catherine ?
Je vais très bien. Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Aurélien, 24 ans, je vous la lis. Mes parents ne parlaient pas de sexualité lorsque j'étais petit. J'ai du mal à en parler aujourd'hui, du coup. Comment remédier à cette absence d'éducation maintenant que je suis un adulte ? Alors Catherine, d'abord, il est important de parler vraiment de sexualité à ses enfants. Lui, ça a l'air de lui avoir manqué, mais est-ce que c'est une obligation ?
Non, bien sûr que non. Alors c'est très intéressant parce que évidemment toute une génération s'est exprimée justement là-dessus en disant mes parents ne me parlaient pas de sexualité. C'est-à-dire après passer les années 70, avant il n'était pas question de parler de sexualité. Puis à partir des années 70, il était question d'en parler, de
beaucoup,
le vivre,
ouais,
etc. Et dès que des familles n'avaient pas cette communication-là, eh bien on recevait dans nos cabinets des patients ou des patientes qui disaient souffert dans leur sexualité, être en difficulté avec leur sexualité parce qu'on ne leur en avait pas parlé. Mais sachez que on reçoit aussi les mêmes qui disent « Mes parents m'ont traumatisée parce qu'ils parlaient de sexualité ».
Tout le temps.
Voilà. Donc en fait, c'est pas tellement ce que disent les parents qui est important, parce que s'il y a bien de quelqu'un dont il est difficile de recevoir et d'accueillir le sujet de la sexualité, c'est bien sûr de nos parents, parce que nous avons toujours peur que cela suscite une excitation, suscite une curiosité, et que ça mêle nos parents à cette excitation et cette sexualité.
Un truc c'est-à-dire, un peu malsain, quoi, c'est ça.
Voilà, une idée que ça va déclencher quelque chose d'oedipien, d'incestuel, bien sûr pas d'incestueux, mais d'incestuel, donc sur la forme psychique incestueuse. Du coup, ça bloque plus qu'autre chose. Alors évidemment, si les parents disent « non, on n'en parle pas », non, je t'interdis.
Tu me poses des questions, j'y réponds pas.
Ouais, voilà, ça c'est autre chose. Mais que des parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants, c'est aussi laisser les enfants aller glaner leurs informations, leur curiosité, leur excitation et le moyen de les satisfaire.
Jimmy ?
Mais le risque, c'est que justement, si on ne leur en parle pas, que ce soit peut-être la pornographie qui les éduque, non ? Et qui du coup leur mette dans la tête des images qui ne sont absolument pas celles des relations soit sexuelles ou même amoureuses.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, le monde de la pornographie est vraiment rentré dans le quotidien des gens. Ce n'est pas comme quand il fallait faire des démarches incroyables pour obtenir des images pornographiques. Donc effectivement, s'il n'y a pas de discours d'un côté, qu'il y en a un hyper discours et extrêmement expressif et violent, évidemment que ça ne laisse pas le moyen à l'enfant de pouvoir arbitrer correctement les choses. Ceci étant, aujourd'hui, il n'a pas eu de discours sur la sexualité. Il peut se dire que lui, il peut apprendre à mettre des mots justement
sur la
sexualité.
Mais est-ce qu'il est obligé d'en parler d'ailleurs ? Est-ce qu'on est obligé de parler de sexualité ?
On n'est pas obligé d'en
parler. Nous, on en parle dans son rendez-vous parce qu'on en a envie et que c'est très intéressant. Mais est-ce que dans sa vie, tous les jours, on est obligé de parler de sexualité ?
Non, on n'est pas obligé de parler de sexualité. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi parler de sexualité fait rougir ou met mal à l'aise ? On a le droit d'ailleurs à nos pudeurs. Je me souviens d'une émission dans laquelle j'avais été invitée en télévision. Et puis, le réalisateur m'avait dit à la fin de l'émission, « Oh là là, Catherine, c'est bien, vous dites les vrais mots, les mots chocs. » Et alors, je me demandais quel mot j'avais dit. J'avais dit « vagin ».
Wow.
Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, nous n'avons pas tous la même compétence à accueillir les mots, parce qu'ils sont toujours porteurs d'imaginaire, toujours porteurs de nos fantasmatiques, plus ou moins importantes, et nous avons à respecter les pudeurs de chacun. Ceci étant, cette question, on ne m'en a pas parlé, et ne pas m'en avoir parlé ne veut pas dire avoir posé un interdit. Et je crois que c'est ça la question, c'est que mes parents ne m'en ont pas parlé, mais ils ne m'ont pas posé un interdit, ils ont respecté ma pudeur, à moi de ne pas continuer à m'interdire et à essayer de réfléchir ce qui est acceptable, pas acceptable, ce dont j'ai envie de parler ou pas, ce que j'ai envie de communiquer ou non, mais à mon tour, dans le respect, si c'est un enfant, de sa propre pudeur.
Jimmy ?
Je ne sais pas si on est mal à l'aise pour en parler. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, donner un préservatif discrètement, le poser sur la table ou dans le sac de son enfant si jamais il part à une soirée ? Ou ça, c'est très maladroit de faire ça, c'est-à-dire de ne pas parler et de lui mettre la capote en disant « protège-toi ».
C'est compliqué parce que quand on met effectivement un préservatif comme ça, qu'on glisse dans la poche, ça veut dire qu'on donne l'injonction de faire l'amour aussi. Donc il faut, si on ne dit pas « si jamais tu avais envie, voici de quoi te protéger de maladie », ou de grossesse, c'est pas la même chose que le glisser en disant tu as l'âge, tu devrais passer à l'acte. Ce qui pousse l'enfant et qui fait que l'enfant a le sentiment d'être vu parce qu'il était il sortait avec une fille ou avec un garçon et tout d'un coup il est vu en devoir de le faire alors qu'il a envie de le faire secrètement éventuellement. Donc c'est compliqué, je trouve que c'est plutôt à ce moment-là à quelqu'un d'autre, si on ne sait pas en parler, à un parrain, une marraine, un oncle, une tante, quelqu'un qui est proche de l'enfant et en tranquillité, dont on sait le discours mesuré, pour qu'il n'y ait pas un delta entre la pudeur des parents et l'impudeur éventuelle d'un autre adulte. Mais voilà, pouvoir le dire de façon peut-être humoristique et plutôt souple, le faire dire par quelqu'un d'autre.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve demain pour les meilleurs moments de Sans Rendez-vous. Dans un instant, votre émission « Et si on partait ?» avec Philippe Googler qui tous les jours vous fait découvrir une région et un pays. Belle aventure !